Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Louis.
Bonjour Liselotte et bonjour à tous les auditeurs ce matin. Parlons un peu de l'Iran, même si je vous l'avoue, franchement, ça ne m'arrange pas. Non seulement ce conflit monopolise l'ensemble des chaînes info comme s'il ne se passait rien d'autre en France, mais en plus sa complexité est telle que si l'on ne suit pas attentivement chaque rebondissement, on est très vite largué. Les belligérants sont si nombreux qu'ils me rappellent ce célèbre sketch des Inconnus.
En effet, Guillaume, je me suis entretenu avec le haut responsable sunnite de Beyrouth Est et il ressort que la situation maintenant est fort claire. En effet, si les maronites modérés du sud Liban redonnent aux alaouites du mouvement dur le contrôle du nord de Beyrouth Ouest, ils ne s'opposeront pas à ce que les chiites Amal demeurent à l'extrême est de Beyrouth Sud. Reste à savoir toutefois ce que les Kurdes du mouvement Kahal feront avec ou sans l'aide des moudjahidines sunnites du clan Afat. Cela dit, si les Tamouls de Palestine restent neutres, et surtout si les Ashkénazes bouddhistes des territoires occupés demeurent divisés, on ne voit vraiment pas comment les calvinistes musulmans du Sheikh Habib pourraient empêcher les intégristes luthériens de l'imam Shouktar d'étouffer dans l'œuf l'intifada des Amish séfarades de la bande sud-est du nord-ouest de la banlieue de Beyrouth-Centre, périphérique intérieur compris. Allons-nous vers une solution au conflit? Nous sommes maintenant en droit de l'espérer.
C'est dingue comme ça n'a pas vieilli.
C'est bouleversant.
C'est extraordinaire. Tellement complexe que même les journalistes s'y perdent. Entre tous ces pays, toutes ces capitales, il y a de quoi les confondre, comme on a pu l'entendre sur BFM.
Jeanne Daudet, vous êtes l'envoyée spéciale de BFM TV dans la capitale israélienne, dans la capitale iranienne, quel est
libanaise.
Le bilan libanaise, pardon. Évidemment, on est sur tous les fronts, c'est aussi pour ça qu'on peut finir par se perdre. Vous êtes donc à Téhéran, dans la capitale libanaise. Quel est le bilan ce matin, Jeanne?
Encore raté. Retour à Paris, capitale de l'Espagne, où l'on constate, en regardant ce conflit, un certain deux poids deux mesures avec ce qui se passe en Ukraine. L'agression russe est qualifiée d'ignoble, de violation du droit international, selon nos dirigeants. En revanche, pour l'Iran, le discours est tout autre, comme l'analyse Michel Geoffroy sur TV Liberté.
La Russie ne mène pas de guerre. Elle mène une opération militaire spéciale. Quel est le but de l'opération affichée de l'opération militaire spéciale? Il est double. Empêcher que l'Ukraine rentre dans l'OTAN empêcher que l'Ukraine ait des armes nucléaires à la frontière russe. Deuxièmement, changer le régime ukrainien que les Russes accusent d'être nazi. Bon, très bien. Et donc, là, on nous dit, non, ça, c'est pas bien, c'est une violation du droit international et donc il faut aider l'Ukraine. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'Iran? On nous dit, il faut empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire et puis il faut changer le régime des mollahs. Et là, c'est bien. Mm. Ah, c'est curieux.
Géométrie variable.
Ça s'appelle le double standard, qui est la maladie occidentale. Et une des raisons pour lesquelles les Occidentaux, aujourd'hui, personne ne fait confiance aux Occidentaux dans le monde, c'est-à-dire pour la majorité de la population mondiale, je le rappelle, parce que nous avons des doubles standards permanents.
Et encore un bel exemple d'hypocrisie occidentale, le double discours permanent de ceux censés porter la voix de la raison. Les contradictions sont leur signature. Allez, encore un exemple pour l'illustrer. Pourquoi poursuit-on Poutine pour l'Ukraine et pas Bush qui a envahi et détruit l'Irak? Une bonne question posée par Darius Rochebain sur LCI qui a légèrement fait bafouiller Thierry Breton.
Pour moi, je regrette que George Bush Jr. et Tony Blair n'aient pas été mis en prison pour trahison de la démocratie.
Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? C'est intéressant. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on n'essaye même pas? Pourquoi on n'essaye même pas? C'est intéressant.
Je pense parce que déjà, ils sont has-been d'une certaine façon.
Ah bah, non, c'est pas une bonne explication, ça, Pierre.
Non, mais moi, je sais pas. Je suis pas américain.
Pourquoi les dirigeants européens, pourquoi les dirigeants européens disent, avec raison, il faut poursuivre Poutine, mais ils n'osent pas poursuivre Bush ou Blair? C'est intéressant.
Alors, c'est pas tout à fait la même chose, parce que la guerre de Poutine est une guerre d'annexion.
Mais pourquoi?
De destruction et d'annexion.
Ça, c'est sûr.
Pardon, mais vous ne pouvez pas quand même comparer. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Pierre Servan. Il le dit en des mots beaucoup moins diplomatiques que moi.
Crime d'invasion de l'Irak, qu'est-ce qu'on fait?
On ne
poursuit pas?
Attendez, on n'est pas encore une fois... je rappelle quand même, parce qu'il faut le dire, et du reste... Vladimir Poutine, aujourd'hui, il est poursuivi.
Oui, non, mais laissons Poutine. Vous avez raison. Mandat contre Poutine, c'est très bien. Mais pourquoi il n'y a pas de mandat contre Bush? C'est intéressant.
Il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de mandat.
Pourquoi? Pourquoi les Européens n'essayent même pas?
Encore une fois, je crois que tout ça maintenant, c'est du passé.
Ah. Et pourtant, il y aurait des choses à condamner. Parfois bien plus graves et flagrantes que ce qu'on a pu voir par le passé. Certaines attaques sont tellement atroces qu'elles dégoûtent même des généraux sur les plateaux, toujours sur LCI.
C'est débile.
Pourquoi c'est débile, dites-vous?
C'est débile, il n'y a pas d'autre mot. C'est complètement disproportionné
à la réalité de la menace sur Israël, je ne parle pas de la symbolique de la menace, mais la réalité de la menace sur Israël. En plus, il s'attaque à un pays, le Liban. Ah, c'est vraiment la victime, le Liban. Hein. C'est, vous voyez, c'est quand même pas de leur faute. Hein.
Mais c'est le Hezbollah qui tire.
C'est le Hezbollah qui tire et Israël pratique ce qu'on appelle la punition collective, ce qui est non seulement illégal, mais c'est immoral. Mais c'est fou, ça. Il y a 700 000 personnes, des femmes, des enfants, des vieillards. C'est pas tous des enragés.
Il y a le dégoût, mais aussi l'humour. Sur CNews, Vincent Hervouet tente un trait d'esprit sur le soutien de la France à Trump. Et c'était sans compter sur Pascal Pro, qu'il a immédiatement repris.
La France doit être le seul pays arabe où on n'acclame pas aujourd'hui Donald Trump. Parce que c'est ça qui est le plus frappant. Depuis que arabe. 48 heures... Oui, non, pardon. Pas le pays arabe. Non, je depuis 48 heures,
si vous avez tout le monde ne comprend pas cette ironie parfois et cet humour au troisième degré que vous avez. Donc je précise, monsieur Hervouet, que c'était de l'esprit.
C'est un crime.
Trump, justement. Sur Tocsin, Alain Juillet, ancien patron de la DGSE, s'est posé une question sensible mais légitime, dont la réponse pourrait éclairer de nombreuses décisions depuis son élection il y a 2 ans.
Il y a une deuxième question, si vous voulez. C'est deuxième question qui est alors, là, je dirais qu'elle est carrément complotiste, peut-être, mais qui, pour moi, pour un ancien du renseignement, ben, ça m'interpelle.
Oui.
Je me dis, on sait très bien que M. Epstein ou Epstein, peu importe comment on l'appelle, il était au minimum un honorable correspondant du Mossad, pour ne pas dire un agent du Mossad.
Mmh.
Bon. Et on sait très bien qu'il récupérait des documents et des choses qui permettaient, compromettants, qui permettaient de tenir les gens.
Ouais.
Est-ce qu'Israël tient Trump ? Est-ce qu'au lieu de parler des Russes qui tiendraient Trump, oui. Est-ce que ce n'est pas Israël qui tiendrait Trump ?
Oui, c'est la question que je pose aussi.
Ça, c'est une vraie question. Parce que ça expliquerait à ce moment-là comment il peut être amené à faire des choses qui sont contraires à toute sa campagne où il disait qu'il allait faire la paix partout.
Mais la France dans tout ça ? La situation explosive va avoir des conséquences. On le sait, tout le monde le sait. Mais ils sont encore très peu à alerter sur ce qui risque d'arriver, à commencer par le prix de l'essence. Pierre Chasseret, de l'association 40 millions d'automobilistes, enchaîne les plateaux pour interpeller les politiques.
Pour arrêter avec le 2 euros, quand j'entends la porte-parole du gouvernement nous parler de 2 euros, elle est à côté de la plaque encore. C'est 3. Il va falloir s'attendre à 3 euros s'il ne se passe strictement rien du côté du gouvernement. Qui pompe, le mot est très approprié, qui pompe aujourd'hui plus d'1,20€ sur votre litre de carburant. Et je ne parle même pas dans les cas où c'est à 2,40€, parce que la TVA étant imputée sur l'intégralité du prix, c'est un massacre fiscal sur les Français.
La semaine dernière déjà, Pierre Chasseret annonçait que la catastrophe risque d'arriver bien plus vite qu'on ne le pense, car les prix sont déjà en train d'exploser, selon le témoignage de cet auditeur sur RMC.
Hier, j'ai chargé du gasoil. Mon prix d'achat TTC, 1,99€.
Donc, à l'achat, avant même l'achat. La marge du distributeur.
C'est
et
ça,
tout.
Donc lundi.
Sans la marge.
Waouh!
Donc lundi, on se fait exploser. Lundi, bah oui. Il faut le dire aux Français.
2,10€.
Ludovic est en train de nous le dire. Il faut le dire aux Français. Laurent est en train de nous le dire. On va le dire à tous les automobilistes. Oui, la semaine prochaine, si Maud Bréjon et tous ses amis du gouvernement continuent à prendre l'association 40 millions d'automobilistes pour des imbéciles, on va avoir un sérieux problème dans notre nation. Parce que quand on touche à la voiture, quand on touche au carburant, on touche à la mobilité, on touche à notre... C'est une fiscalité pour aller au boulot. Et puis je voudrais... Tiens, et ça Jérôme le sait. J'ai fait une petite enquête dans mon fichier 40 millions d'automobilistes. On n'est pas beaucoup, j'ai 3 500 000 personnes dans le fichier, c'est pas mal. J'ai envoyé un petit... juste une question, j'ai voulu savoir quelle était l'utilisation sur laquelle leur voiture leur était absolument essentielle.
La santé.
La santé.
Mais bien sûr.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on est en train de taxer celui qui doit aller à l'hôpital. Soigner, ouais.
Une situation qui pourrait ne pas ravir ces Français qui, dans l'urgence, doivent rentrer sur le territoire. Si la plupart de ces retours sont tout à fait compréhensibles, il est une catégorie qui nous énerve particulièrement, les influenceurs. Ces personnes qui fuient la France et ses impôts pour un pays comme Dubaï, où ils ne paient plus rien. Mais la belle vie a tourné court depuis le début du conflit, et maintenant, ils aiment de nouveau la France. Une hypocrisie dénoncée par le premier youtubeur de France, Thibaut InShape, sur Europe 1.
Ils ont lancé un appel à l'aide pour rentrer en France avec la guerre en Iran. Le youtubeur Thibaut Inchep avait réagi dimanche avec ce message sur ses réseaux sociaux. Les influenceurs de Dubaï, finalement, on est bien en France, n'est-ce pas? Cela a beaucoup fait parler. Il s'est expliqué dans l'émission Clic sur Canal+.
C'est malheureux le conflit qui se passe actuellement. C'est hyper triste. On ne souhaite pas du tout en France. Il y a des gens qui sont bloqués à Dubaï. Mais aujourd'hui, le but, c'est de dénoncer l'hypocrisie des influenceurs qui fuient les impôts, qui fuient parfois même la justice française. Je ne parle pas de tous les influenceurs, mais de certains, ce qu'on appelle influvoleurs, qui arnaquent les Français et qui, ça y est, il y a la guerre, veulent que la France les protège.
Thibaut Inchep est une voix importante chez les jeunes générations, près de 27 millions d'abonnés sur YouTube. Il n'a pas hésité à pointer du doigt le comportement de certains influenceurs.
Oui, la France va les protéger, ça va se passer comme ça, mais c'est en mode, ils passent leur vie à, je vais utiliser un terme, excusez-moi, à chier un petit peu sur la France.
Thibaut Inchep a raison, c'est intéressant de regarder les discours de certains influenceurs.
Et les journalistes d'Europe 1, Laurent Tessier, a illustré le propos de Thibaut Inchep avec cette influenceuse qui ne cesse de cracher sur la France, sauf quand elle a besoin d'elle.
Comme Maëva Guénam, 3 millions d'abonnés sur Instagram et son appel ce week-end à la protéger.
On est des Français, hein. La France, protégez-nous, hein.
De nombreuses vidéos ont été publiées sur ses réseaux sociaux. Elle s'est adressée à tous ceux qui la critiquaient, parlaient d'hypocrisie.
Je suis ressortissante française, j'espère que la France elle va me protéger. Et j'espère qu'ils vont me rapatrier en France.
Je suis ressortissante française, dit l'influenceuse à Dubaï, Maëva Guénam. Bah ça dépend des jours, des mois, des années.
Mon peuple, je suis algérienne à 100%, de père et de mère.
C'est si je meurs, je veux pas être enterrée en France, je veux être enterrée dans mon pays.
Une influenceuse de 28 ans qui se rappelle de la France pour se filmer avec le député LFI Sébastien Delogu avant les élections législatives de 2024.
Je suis avec mon Big Boss, et c'est très très important d'aller voter.
Elle l'appelle le Big Boss, une influenceuse qui vit à Dubaï et qui n'est pas à l'aise dans un marché de Noël en France.
Il y a du ralouf de partout. Ouais, on va faire comment ?
Maëva Guénam avait réagi à la polémique avec cette question.
Pourquoi vous me faites une polémique, les Gaulois ? J'ai pas compris.
Les Gaulois. Eh bien, elle est contente de retrouver les Gaulois pour faire la promotion de nombreux produits sur ses réseaux sociaux. La France, protégez-nous, oui, protégez mon business surtout.
Combattre votre cellulite. Et là, vous avez 25% de réduction.
Une influenceuse qui sait faire appel aux Gaulois pour demander de l'aide. Mais tiens, changement de discours, ces dernières heures, la cite, à Dubaï, nous sommes protégés. Est-ce lié au message d'avertissement de la police sur place? Il est interdit, je cite, de diffuser tout contenu qui pourrait provoquer la panique au sein de la population. Les contrevenants s'exposent à des sanctions pénales, des peines d'emprisonnement, des amendes d'au moins 47 000 euros.
Ah oui.
Alors oui, le youtubeur Thibaut Inchep a raison. Hypocrisie totale de certains influenceurs.
Excellent.
Et cette hypocrisie qui pourrait être le maître mot de cette chronique me rappelle ces gauchistes donneurs de leçons, prenant la société ouverte pour tous, sauf pour eux. Exemple avec la journaliste Isabelle Saporta, compagne du sénateur écolo Yannick Jadot, qui a fait tomber le masque en avouant avoir mis ses enfants dans le privé pour fuir le public.
Selon ces chercheurs, pour éviter que seules les classes dans le public ferment, il faudrait fermer 2 classes dans le privé à chaque fois qu'on ferme 3 dans le public. Ben oui, c'est logique ça de fermer des classes dans le privé pour bien les punir, d'avoir l'outrecuidance, de rester pleine à craquer pendant que celles du public se vident. Mes chers chercheurs, pourquoi elles restent pleines ces classes du privé, hein ? Parce que les parents sont fous de joie de les mettre dans le privé, leurs enfants, parce qu'ils y trouvent discipline et rigueur et que cela leur apporte une certaine tranquillité d'esprit. Et même cette tranquillité d'esprit pour nos enfants, on n'y aurait pas droit? Parce que oui, moi aussi j'ai mis mes filles dans le privé, alors que je suis le fruit de la méritocratie républicaine et un fervent défenseur du public. Oui, mais voilà, on a des convictions, puis un jour on a des enfants, et là on veut le meilleur pour eux. Et c'est à ce moment-là que, bourré d'angoisse, on met nos enfants dans le privé en espérant leur donner une petite chance en plus.
L'hypocrisie, la belle hypocrisie venant de ces gens qui mettent leurs enfants dans le privé tout en obligeant les autres à accepter le public. De ces gens qui condamnent fermement l'invasion de l'Ukraine, mais pas celle de l'Iran. De ces gens pour qui la France ne représente qu'un recours en cas de besoin, mais n'est rien d'autre qu'un paillasson. Entendre mal? Non, il n'y a pas à dire, l'hypocrisie a de bons jours devant elle. Comptez sur moi pour le montrer.
Merci Louis.
Merci Lisotte.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et on poursuit, chers auditeurs, comme je vous le disais, aujourd'hui Xavier Van Lierde est remplacé exceptionnellement par Jean-Yves Le Gallou qui vient présenter son dernier ouvrage. Et je laisse sans tarder la parole à Richard De Cèze qui mène cet entretien.
Bonjour Liselotte, bonjour chers auditeurs, bonjour Jean-Yves, vous grand remplacé effectivement Xavier Van Lierde. Pardonnez-moi, c'était tout simple. On est en train de parler d'un remarquable ouvrage que vous venez de publier, Remigration pour l'Europe de nos enfants, où vous établissez, si je veux dire, l'état de l'art de la remigration en France, il ne se passe rien. En Europe, il se passe plus de choses. Et d'un point de vue historique, et c'est tout à fait intéressant, vous nous dites qu'en fait, la remigration, c'est une solution dont on parle beaucoup depuis une dizaine d'années. Le mot est apparu en 2012 ou 2013, si je ne m'abuse. Mais en fait, il y a tout un chapitre historique fascinant où vous nous parlez des grandes expériences de remigration qui ont connu un vrai succès au XXe siècle, au XIXe, etc.
Oui, alors il y a eu des remigrations au cours de l'histoire. Il y a toujours des remigrations au cours de l'histoire. Certaines sont un peu forcées, mais d'autres peuvent être volontaires. Je prends un exemple. Quand l'Union soviétique est tombée, il y a eu deux formes de remigration volontaire. Il y a un certain nombre de Russes d'origine juive qui sont partis volontairement en Israël, ou de Soviétiques d'origine juive qui sont partis volontairement en Israël. Et de même, il y a eu un certain nombre d'Allemands, les Allemands de la Volga, qui sont repartis en Allemagne fédérale. De même que des Russes qui pouvaient être au Kazakhstan ou dans d'autres républiques soviétiques non russes sont repartis vers la Russie. Donc il y a aussi des remigrations volontaires. Bon, il y a aussi parfois des remigrations forcées. Il y a notamment eu en Afrique beaucoup de remigrations forcées. Et il y a eu aussi des remigrations forcées aux États-Unis. Dans les années 2000, bien avant Trump. Pareil, voilà. Donc, il y a des remigrations, il y en a qui se passent plus ou moins bien, qui peuvent être aidées. Dans les années 1970, il y a eu des politiques d'aide au retour menées par... Valéry Giscard d'Estaing, qui avait à l'époque comme ministre Lionel Stonnerud, il y a eu des politiques qui ont eu plus ou moins de succès, puisque les aides au retour ont surtout bénéficié à l'époque à des Portugais, alors que l'objectif était plutôt que ce soit les Algériens qui en bénéficient.
Et à propos d'Algérie, eux aussi ont tenté et réussi une belle expérience de remigration en proposant la valise ou le cercueil. Et il y a un nombre considérable d'Européens qui ont décidé de refranchir la Méditerranée.
Absolument, 1 200 000, je crois. Alors ça, c'est la remigration forcée, tout à fait, qui est une autre forme de remigration qu'on trouve aussi, là aussi, tout au long de l'histoire. Et il y a eu beaucoup de remigrations forcées à la fin de la décolonisation, notamment d'ailleurs des remigrations forcées à l'intérieur des nouveaux États africains ou entre nouveaux États africains.
Et on peut aussi parler d'ailleurs aussi des déplacements de population, par exemple au moment de la création du Pakistan, donc là où la partition anglaise a fait en sorte que des millions d'Indiens sont partis de ce qui était devenu le Pakistan pour revenir en Inde, et inversement, avec d'ailleurs évidemment, comme c'était organisé par les Anglais, des millions de morts au passage. Mais ce qui est fascinant dans votre livre, c'est qu'on voit bien que ce concept de remigration qu'on nous présente comme une espèce de chimère, comme une espèce d'impossibilité, comme quelque chose d'horriblement complexe, est en fait continuellement pratiqué depuis des siècles. Et on n'a même pas besoin de remonter au 18e, au 19e, au début du 20e. On est encore en mode remigration sur beaucoup de déplacements de population. Il suffit juste en fait de nommer la chose pour se rendre compte que c'est exactement ça qui se passe. L'ALIA, par exemple, est un mode de remigration.
Absolument, l'ALIA est un mode de remigration volontaire. Il y a aussi eu des remigrations terribles au début du XXe siècle. Je pense par exemple à l'échange de population qui a eu là aussi un peu sur le modèle de ce qu'ont pu faire les Anglais à la fin de la colonisation en Inde. Entre la Turquie et la Grèce, où il y a eu des départs de Turcs vers la Grèce, mais en plus grand nombre des départs de Grecs vers la Turquie. Et c'est une remigration particulièrement bouleversante, celle-là, puisque des Grecs ont quitté la côte ionienne, où ils étaient, où leurs ancêtres étaient, depuis 2500 ans. Donc on voit que la remigration, ça peut prendre un certain temps.
Ça peut prendre un certain temps. Et surtout, voilà, ce qui est présenté en France comme étant une chimère raciste est en fait un mode normal de gestion des populations sous beaucoup de latitudes et une fois de plus, y compris à une date extrêmement récente.
Oui, et c'est une manière d'éviter les conflits finalement. C'est un conflit momentané, mais qui vise à éviter des conflits beaucoup plus durables parce que la vérité, c'est que, quelle que soit l'époque, quel que soit le lieu, les sociétés multiculturelles sont des sociétés multiconflictuelles, et la remigration est précisément faite pour éviter le conflit permanent.
Alors, cette remigration, vous en faites l'histoire, vous faites, donc voilà, vous parlez de la Reconquista, on met 9 siècles à faire en sorte de repousser l'ennemi et de faire en sorte que l'ennemi remigre chez lui, voilà, 9 siècles, c'est un peu lent. Vous avez, évidemment, c'est une remigration européenne à laquelle vous aspirez, et c'est l'idée de défendre en fait une unité qui est à la fois une unité historique, une unité géographique et une unité ethnique.
Oui, alors je crois qu'on mesure mal à quel point il y a une unité derrière la diversité, derrière les conflits, puisque finalement l'histoire de l'Europe, c'est aussi la guerre des monarchies entre elles, la guerre des féodalités entre elles, la guerre des cités grecques entre elles, la guerre des cités italiennes entre elles, au moment de la Renaissance et du 400, mais derrière tous ces conflits, il y a une unité qui est à la fois une unité civilisationnelle, une unité religieuse, et effectivement une unité ethnique. Quel que soit, c'est pour ça que je parle des Européens comme peuple premier en Europe, quel que soit l'endroit où on se trouve en Europe, qu'on se trouve dans le golfe de Finlande ou près du détroit de Gibraltar, les Européens sont issus des mêmes composantes, avec des proportions qui peuvent être un peu différentes, composantes des chasseurs-cueilleurs, qui remontent à 40 000 ans, hein, c'est les grottes ornées, la grotte Chauvet, composantes qui remontent à 40 000 ans, une composante d'agriculteurs anatoliens qui sont arrivés il y a moins de 10 000 ans, et puis la composante indo-européenne qui est arrivée il y a un peu plus de 5000 ans, et ces trois composantes se retrouvent chez tous les Européens contemporains, dans des proportions peut-être un peu différentes d'un pays à l'autre, et même d'un individu à l'autre, mais ces trois composantes se trouvent et fonctionnent comme une grande unité, on va dire, d'origine, une grande unité génétique, et c'est une unité qui remonte, comme je l'ai dit, un des temps très anciens et dans la forme actuelle à plus de 5000 ans. C'est-à-dire que quand on nous dit, par exemple, la France est un pays d'immigration, c'est une vaste blague. C'est une vaste blague parce que le peuplement européen, il remonte à 5000 ans, il n'a pas été profondément modifié depuis 5000 ans, et le peuplement français remonte lui aussi à 2000, à 3000 ans, avec des petites modifications, finalement, à la marge. Et quand nos amis venus d'ailleurs appellent les Français des Guers ou des Gaulois, ils n'ont pas tout à fait tort, parce que fondamentalement, la population française telle qu'elle est aujourd'hui, ou plus précisément, telle qu'elle était en 1960 ou 1970, avant l'arrivée des masses venues d'ailleurs, c'était la même population à peu de choses près qu'à l'époque de l'Empire romain ou même avant l'Empire romain. Le substrat français n'a pas fondamentalement changé depuis plusieurs milliers d'années jusqu'en 1960.
Au passage, la carte des tribus gauloises correspond à peu près à la carte des départements. Donc c'est une espèce de permanence absolument incroyable où on voit bien qu'il y a vraiment une façon d'être installé, d'habiter un territoire voilà, qui n'a pas varié des siècles et même des millénaires durant. Aujourd'hui, cette remigration, elle devient nécessaire parce qu'il y a un double mouvement. D'une part, Il y a des gens qui arrivent par centaines de milliers chaque année. On en parle régulièrement sur Radio Courtoisie. C'est l'équivalent de plusieurs villes moyennes qui débarquent tous les ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans. Il y a une profonde immigration. Et donc, ce n'est pas des migrants, ce sont des gens qui immigrent. Ils restent chez nous. Et
des colonisateurs. Et c'est une colonisation de peuplement. C'est la différence entre la colonisation européenne en Afrique, qui était une colonisation de protectorat, où on envoyait quelques hommes qui encadraient, et la colonisation actuelle, qui est une colonisation de peuplement, puisqu'on occupe des territoires.
On occupe des territoires dont on change d'ailleurs les coutumes, puisque voilà, il y a des gens qui prêchent maintenant l'établissement de la charia en France, et on se souvient tous de ces sondages assez inquiétants où la moitié de la population musulmane, pourvu qu'elle ait moins de 35 ans, considère que la charia doit déplacer les lois de la République. Mais il y a un autre mouvement qui est celui de la chute démographique, en fait. Donc, oui. Et donc cette unité européenne, cette unité des peuples premiers européens, elle est menacée parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent, oui, et qui ne sont pas européens, et parce que les Européens font moins d'enfants.
Oui, et que parmi les gens qui arrivent, même si parmi les gens qui arrivent, les taux de fécondité diminuent, dans le monde entier. Mais évidemment, pas avec la même vitesse. Et donc, il y a un décalage, en quelque sorte, dans le temps. C'est-à-dire que le grand remplacement, vous savez, Renaud Camus dit, le grand remplacement, moi, les statistiques ne m'intéressent pas, ouvrez les yeux. C'est une première approche qui est tout à fait pertinente. Mais on peut aussi regarder les choses à travers des statistiques. Et donc, il y a deux phénomènes qui font que nous risquons, nous, Européens de souche, de devenir minoritaires d'ici 10 ans, en tout cas, minoritaires dans les berceaux, dans les maternités. C'est un double mouvement, l'arrivée de populations nouvelles, et un différentiel de taux de fécondité, puisque les taux de fécondité des gens venus d'Afrique ou du Maghreb sont plus élevés que les taux de fécondité des Européens de souche. Et donc, on voit très bien que ce basculement, en tout cas au niveau des maternités, il va arriver très vite dans à peu près tous les pays d'Europe. Le phénomène est le même partout.
Et ça qui est le phénomène est le même partout, et on voit bien d'ailleurs que beaucoup de pays en Europe, y compris des pays de gauche ou des pays gouvernés par la gauche, ont décidé de stopper l'immigration, d'encourager les départs. Et il suffit de voir d'ailleurs les résultats dans le nord de l'Europe où les gouvernements, qui ne sont pas du tout des gouvernements de droite ni même de centre, mais plutôt des gouvernements de gauche, ont des politiques anti-immigration très fermes, avec d'ailleurs des résultats probant sur le fait de reconstituer une unité culturelle, une unité historique, une unité nationale autour de l'idée que n'importe qui ne peut pas prétendre être suédois ou danois, et on espérerait qu'en France, n'importe qui ne puisse pas prétendre devenir français sous prétexte qu'il a franchi la frontière, y compris d'un point de vue illégal. Mais en France, cette remigration a des obstacles qui sont d'une part le fait que politiquement, ça se porte mal et que juridiquement, c'est devenu horriblement compliqué.
Alors, là aussi, on a à peu près le même phénomène dans tous les pays européens. C'est que la politique migratoire, elle est conduite de fait par les juges. Voilà. Est-ce que vous savez qui est Monsieur Thierry Andrieux ?
J'ai lu votre livre, en fait.
Vous avez lu mon livre. Bon, eh bien, c'est l'homme que personne ne connaît, qui fait rentrer le plus d'immigrés en France, 60 000 chaque année au titre du droit d'asile. C'est le président de la Commission nationale du droit d'asile. C'est un parfait oligarque inconnu, énarque, fils d'énarque, gendre d'énarque, marié à une énarque. Enfin, je peux me permettre de critiquer les énarques, mais là, c'est très, très endogamique, en quelque sorte. Et c'est lui qui nous fait rentrer chaque année 60 000 immigrés au titre du droit d'asile. Vous avez aussi le Conseil d'État, vous avez le Conseil constitutionnel qui bloque les lois. Vous savez qu'il y avait eu 2 ans une loi très modeste qu'avait défendue M. Darmanin comme ministre et M. Retailleau comme président du Sénat. Eh bien, le Conseil constitutionnel avait balayé toutes les rares mesures restrictives. Il avait gardé les mesures d'ouverture et balayé les mesures restrictives. Et donc, l'immigration aujourd'hui, ce sont les juges qui la font. Ce sont les juges qui la font. Mais ce n'est pas seulement en France. C'est-à-dire qu'il y a à peu près dans tous les pays soit des cours constitutionnels, soit des hautes cours. Le nom varie d'un pays à l'autre, mais des forces de blocage. Et c'est pour cela que je ne traite pas forcément des questions très techniques dans ce livre. La question n'est pas de savoir s'ils repartent en Boeing
ou en bateau.
En Airbus ou en bateau, c'est pas ça. La question centrale, en France et dans les autres pays européens, c'est ce que j'appelle le juge exit, c'est-à-dire la reprise du pouvoir par les peuples, à travers le référendum notamment, ou à travers les législateurs, les parlementaires, au détriment des juges, qui sont aujourd'hui les acteurs totalement irresponsables, les acteurs totalement irresponsables de l'immigration de masse que les Français, les Allemands, les Italiens, les Suédois subissent. Je cite les Suédois parce qu'il y a des projets assez fermes en Suède, notamment de révision du code de la nationalité suédoise, et qui se heurtent à une décision de la Cour suprême suédoise, qui n'a pas encore tranché, mais qui ralentit la procédure. Voilà.
Et il y a dans, dans votre ouvrage un schéma tout à fait fascinant qui est la manière, enfin il y a plusieurs schémas, mais il y en a un qui est vraiment épatant, qui est la manière dont les gens jugent dans différents pays de la nécessité d'avoir des immigrés et la manière dont la classe politique de ces mêmes pays juge de cette nécessité. Et il y a des décalages de 10, 20, 30, 50% entre on interroge tout le monde. Et voilà, dans au moins 5 ou 6 pays, la France d'ailleurs ne fait pas partie du schéma que je cite, dans 5 ou 6 pays, l'immense majorité des gens considèrent que les étrangers ont le droit d'être là, mais on n'a pas besoin de leur donner tous les droits, ils n'ont pas forcément le droit d'être là non plus. Et au contraire, la classe politique dans son ensemble, donc là aussi, de l'extrême droite à l'extrême gauche, est en décalage complet avec la perception de la population.
Totalement, totalement. Alors, ça s'explique de deux manières. D'abord, la classe politique, elle est soumise, ou les classes politiques en France ou ailleurs, soumises à la doxa médiatique. Et donc, il y a une soumission permanente. J'entendais encore, il y a quelques jours, un représentant, M. Jacobelli, du Rassemblement National, nous expliquait à quel point l'islam était compatible avec la République. Bon, donc,
et à quel point l'AFD était un parti abominable.
Voilà. Donc là, on est vraiment dans la doxa, y compris dans un mouvement qui devrait être quand même un peu plus dissident que les autres. Dans la réalité des choses, c'est les juges qui décident. Et donc, d'ailleurs, les hommes politiques, ils ont au fond deux alibis. Ah, on voulait le faire, mais alors soit c'est l'Union européenne qui nous l'a empêché, soit c'est les juges qui ne nous le permettent pas. Donc, ils sont là, ils discourent, en France et en Europe, les hommes politiques discourent, et les juges conduisent les politiques avec la bénédiction des médias. Et vous voyez à quel point les médias et les juges fonctionnent l'un avec l'autre, puisque les médias expliquent que tout ce qui reviendrait à remettre en cause le pouvoir des juges sera une atteinte terrible à l'état de droit, alors que ce serait simplement un changement dans l'état de droit.
Voilà, et les juges sont là pour faire appliquer le droit et non pas pour l'inventer en permanence. Vous venez de dire l'Union européenne, ça tombe bien, on a l'impression que justement c'est en train de bouger et que le PPE et l'ensemble des partis de droite qui sont présents au Parlement européen sont en train de réussir à faire voter des lois qui permettent d'accélérer le retour, qui permettent d'avoir des pays tiers, qui permettent d'assouplir les règles de l'Union européenne. Notamment, il y a de plus en plus de pays sûrs, puisque c'était l'un des grands arguments des juges, on ne peut pas renvoyer quelqu'un dans son pays parce que son pays marche très mal. Et donc là, non, ça y est, brusquement, il y a plus de pays sûrs qu'auparavant.
Oui, alors, je trouve extrêmement positif le vote qui a eu lieu au Parlement européen, dans la Commission des libertés. Je trouve ça très, très positif, notamment par la structure du vote. C'est-à-dire l'alliance entre les trois groupes de droite, ou les trois groupes identitaires, patriotes. Si on transpose en modèle français, on a Bardella, Marion Maréchal Knafo, si on transpose en modèle européen, on a les Italiens de Madame Meloni, on a l'AFD allemande et on a le, oui, les Hongrois. Donc ça, c'est une coalition avec, et ça c'est nouveau,
le PPE.
Avec une partie du PPE. Alors, je crois qu'il faut quand même rester triplement prudent par rapport à cela, même si c'est extrêmement positif. Même si c'est extrêmement positif, il faut rester prudent pour trois raisons. La première, c'est que c'est un vote dans une commission. Attendons le vote en plénière. La deuxième raison d'être prudent, c'est qu'ensuite, ça va être négocié entre le Parlement et la commission. Donc, il va y avoir probablement des amodiations. Et la troisième raison, c'est qu'au final, ce seront les juges qui décideront. En France et ailleurs, et les juges peuvent parfaitement dire « oui, il y a ce règlement européen, bien sûr, qui normalement s'applique de manière et au-delà de la loi et même de la Constitution, mais il y a la Convention européenne des droits de l'homme, et en fonction de notre interprétation des textes de la Convention européenne des droits de l'homme, bah, on pense ceci plutôt que cela. » Donc ce n'est pas encore... acquis,
disons que
mais
c'est un pas dans la bonne direction.
Ça va vraiment dans le bon sens. Et je peux vous dire, ça va d'autant plus dans le bon sens que la commission des libertés au Parlement européen a souvent été une commission très axée à gauche.
Et donc là, c'est en train de basculer. Dans votre livre, dont Remigration pour l'Europe de nos enfants, on a le sentiment que voilà, il faut ce juge exit. Et on a le sentiment d'une part que vous établissez bien le bon diagnostic, ensuite qu'il faut ce juge exit, et que après, c'est le chapitre équité et fermeté que on peut effectivement encourager les gens à repartir chez eux, voire dans certains cas, dire les criminels, les forcer à repartir chez eux, sans que ce soit en fait une impossibilité logistique, sans que ce soit un crime contre l'humanité. Autrement dit, on peut faire en sorte de choisir en fait notre immigration et on peut faire en sorte de choisir notre remigration.
Absolument, ce n'est absolument pas un problème logistique. Ce n'est absolument pas un problème logistique, c'est un problème psychologique. Est-ce qu'on est prêt ? Le problème psychologique, il est double. Premier problème, c'est que jusqu'ici, on a traité les problèmes de l'immigration du point de vue de l'immigré. Est-ce que c'est bien pour lui ? Est-ce qu'on peut le renvoyer ? Voilà. Il faut traiter le problème de l'immigration du point de vue du pays d'accueil, du point de vue des gens qui accueillent, des gens qui souffrent de l'excès d'immigration dans leur quartier, du peuple historique qui a le droit de survivre. Donc c'est un basculement copernicien qu'il faut avoir. On se place de notre point de vue, pas du point de vue de l'autre. Vous savez, c'est Big Other, la formule de Raspail. Eh bien, non, il faut cesser Big Other. Il faut d'abord penser aux nôtres, les nôtres avant les autres. Ça, c'est le premier basculement. Le deuxième basculement, il faut admettre l'idée, même si c'est en dernier recours, il faut admettre l'idée du recours à la force. Et cela, je ne suis pas le seul à le dire. Monsieur Védrine, qui a été secrétaire général de l'Élysée à l'époque de Monsieur Mitterrand, qui a été ministre des Affaires étrangères de Monsieur Mitterrand, a dit, à propos d'ailleurs de l'immigration, en 2015, lorsqu'il y a eu la vague migratoire considérable, un jour, le recours à la force sera inéluctable. Et je crois qu'on ne peut pas fermer l'idée du recours à la force.
Et dans votre ouvrage, il y a d'ailleurs tous les exemples des pays africains contemporains qui ont recours à la force d'une manière très régulière pour remigrer ceux qui sont juste indésirables. Donc, autrement dit, la chose est admise, la chose est pratiquée, et on n'entend pas les cris d'orfraie des uns et des autres quand il s'agit pour la Tunisie de préserver son espace historique. Jean-Yves Le Gallou, merci beaucoup. J'encourage à nouveau tout le monde à lire cet ouvrage, Remigration pour l'Europe de nos enfants, paru aux éditions de la Nouvelle Librairie. Et évidemment, j'espère qu'on Radio Courtoisie vous offrira une tribune beaucoup plus large pour pouvoir en parler plus en détail.
Merci de cette première expérience, en tout cas.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et on poursuit avec la chronique d'Éric Doutrebande, fondateur de Tiepolo, société de gestion de portefeuille indépendante gérant des clients privés. Bonjour et merci d'être avec nous, Éric Doutrebande.
Bonjour.
Alors après les vacances scolaires et des journées de forte volatilité sur les marchés financiers, dont la tension sur le pétrole, pouvez-vous nous évoquer les principales mesures de la loi de finances pour 2026, publiée le 20 février au Journal officiel ?
Alors, il y a tout d'abord la revalorisation du barème de l'impôt sur les revenus. Et évidemment, il y a une montée, puisque c'est lié au taux d'inflation. On est à plus 0,9%. Après, il y a l'augmentation du taux de la CSG sur certains revenus du patrimoine. Ce taux est désormais passé à 10,6% contre 9,2% précédemment, ce qui porte les prélèvements sociaux à 18,6% contre 17,2%. Et donc, évidemment, la flat tax, qui était à 30%, passe à 31,4%. Je rappelle que la CSG, c'est 1991, Monsieur Rocard. Nous avions commencé à 1,1%. Et aujourd'hui, c'est 154 milliards de CSG qui sont rentrés dans la caisse de l'État en 2024. Donc, c'est nettement plus que l'impôt sur le revenu. Donc c'est important, CSG, il faut toujours ajouter la CSG avec le montant de l'impôt. Donc sont concernés par cette augmentation, moi, je dirais à peu près tous les, que ce soit les dividendes, les plus-values, les placements de revenus fixes, les rentes de PER, les gains de PEA, les revenus de location meublée non professionnelle, en fait sont exclus, donc c'est là encore on complique les choses, les revenus fonciers, les plus-values immobilières et les produits des contrats d'assurance vie et des contrats de capitalisation. Donc, encore une mesure qui est à la hausse, qui va évidemment contraindre les Français à gagner un peu moins de, avoir un peu moins d'épargne, mais surtout la CSG, donc la déductibilité de la CSG, elle n'augmente pas et demeure à 6,8%. Voilà, un point CSG non négligeable. Après, autre élément, la reconduction de la contribution différentielle sur les hauts revenus. Donc, ça a été lancé en 2025. Évidemment, ça doit être fait que pour une seule année. Ça concerne les couples qui gagnent célibataires 250 000 euros, les couples 500 000 euros. Donc, c'est pour les hauts revenus. Et là, on a une contribution qui est reconduite en 2026 et qui représente des taux non négligeables, sachant que les modalités donc n'ont pas bougé. Concernant cette contribution, il y avait une espèce de flou artistique sur les dons. Donc là, ça a été corrigé dans la loi de finances de 2026. Ça, c'est une bonne chose. Donc les réductions pour dons retrouvent toutes leurs efficacités pour les contribuables concernés. Autre point, l'évolution relative au plan d'épargne retraite, donc les PER. Vous savez que c'est un PER, on collectait énormément, je l'avais indiqué il y a quelques semaines. Les primes versées après 70 ans sur les PER ne sont plus déductibles. En revanche, il est désormais possible d'utiliser le plafond de déduction non utilisé des 5 années précédentes, alors qu'avant, c'était les 3 années. Je rappelle que sur votre déclaration d'impôt que vous avez reçue, votre avis d'imposition que vous avez reçu au mois de septembre, vous avez ces montants, donc profitez-en et surtout faites-vous conseiller pour essayer de voir si le PER est adapté. Attention, le PER n'est pas adapté à tout le monde. Concernant les dons aux œuvres, là, il y a une modification puisque concernant les dons pour les personnes en difficulté où il y a une réduction égale à 75% du montant, il se passe concernant les dons qui ont été consentis après le 14 octobre 2025, on passe de 1 000 à 2 000 euros. Voilà, ça va concerner certaines catégories de dons. Et alors, une nouveauté que j'évoquerai encore tout à l'heure, ben les dons concernant le château de Chambord, eh bien, on a une déduction de 75% jusqu'à 1 000 euros. Et là, évidemment, il n'est pas tenu compte des 20% du revenu imposable. Concernant les barèmes, dont je parlais de la création du statut de bailleur privé, donc là, il y a un nouveau système, ça s'appelle le dispositif Jeanbrun, après les périssols et tous ces aspects-là. Il concerne l'amortissement, encore un sujet pas très simple, et au lieu d'avoir quelque chose facile, on continue de compliquer la vie de nos chers compatriotes. Concernant la taxe sur les holdings, donc là ça concerne les gens qui ont fait des holdings, les actifs dits somptuaires sont exclus, donc ça va toucher pas mal de gens aussi, des gens qui ont mis leur résidence principale ou autre logement dans les holdings, ils vont être un petit peu embêtés. Concernant le recensage du régime du Dutreil, évidemment, les biens somptuaires vont aussi être modifiés. Et puis, il y a d'autres éléments mineurs, mais il y a aussi l'aménagement des gens qui donc, s'appellent les management package. C'est quand vous avez des montages qui sont faits pour que les managers puissent accompagner des opérations de LBO, par exemple. Et donc là, il y a encore de la modification.
Alors, est-ce que ces mesures vont dans le sens de la simplification qu'Alain Madeline a à nouveau donné comme objectif aux politiques, Éric Doutrebente ?
Écoutez, malheureusement, non, on continue de faire des choses spéciales. Vous avez compris qu'il y avait deux sortes de CSG avec des taux différents. La CSG, vous avez compris que c'était un impôt qui était dit exceptionnel en 1991. On y est au bout de 25 ans et ça n'a fait qu'augmenter. Après, il y aura encore des lignes supplémentaires de la déclaration d'impôt. Entre les déclarations d'impôt qu'il y avait en 1991 et aujourd'hui, il y a une inflation de lignes, de bouts de papier, de complications. Et malheureusement, on ne va vraiment pas encore vers la simplification. Et aussi l'aspect immobilier, au lieu de faire une réforme pour relancer l'immobilier locatif, encore un dispositif compliqué. Malheureusement, on est loin de la simplification. En plus, l'affaire du château de Chambord, pourquoi le château de Chambord serait avantagé? On fait encore des choses particulières, ou à moins qu'on veuille accueillir le roi à Chambord dans quelques temps.
Pourquoi pas? Merci Éric Doutrebente pour cette chronique. Et puis comme d'habitude, je rappelle aux auditeurs qui auraient besoin de conseils supplémentaires qu'ils peuvent vous contacter, donc, ou bien contacter directement la radio. On vous mettra en relation. Merci et je vous dis à la semaine prochaine.
Et bonne semaine.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
On continue avec vous, Gilles.
Bonjour, Lieslotte. Bonjour, Franck.
Bonjour, Gilles.
Bonjour, chers auditeurs.
Le Parisien révèle que l'une des plus grandes organisations criminelles a été décapitée.
Oui, les secrets d'un coup de filet, titre en une le quotidien. Opération spectaculaire contre la DZ Mafia, titre encore le quotidien en page intérieure. À l'issue de plus d'un an d'enquête, les gendarmes marseillais ont interpellé lundi des dizaines de membres de l'organisation criminelle, dont trois dirigeants et un avocat. Et les reporters du Parisien, dont Jean-Michel Descugis, racontent qu'il s'agit de la plus grande opération de ces dernières années visant la criminalité organisée et la plus tristement célèbre de ces structures. On l'appelle la pieuvre. Et les gendarmes de la section de recherche de Marseille espèrent en avoir coupé les tentacules comme la tête en plaçant en garde à vue 42 membres de l'organisation criminelle. Il faut des cellules pour ça. Parmi eux, des hommes immensément dangereux, est déjà mis en examen pour des faits criminels. Alors, vous pourrez lire le nom de certains d'entre eux, toujours dans le Parisien. Et l'enquête, initialement dans les mains de la police judiciaire, puis confiée aux gendarmes en novembre 2024, ne cible pas un crime précis, mais s'attaque à la structure même de la DZ Mafia. Elle vise la direction, je cite, d'un regroupement criminel ayant pour activité le trafic de drogue, infrastructure qui peut valoir la prison à perpétuité.
Et qu'apprend-on encore?
Alors en 2023, la guerre entre la DZ Mafia et le clan Yoda a fait 49 morts à Marseille. Des crimes souvent impunis, raconte le Parisien, par de très jeunes tueurs à gages téléguidés depuis la prison par les barons du groupe criminel. On croit rêver. Une violence aveugle qui a permis d'ailleurs au cartel de s'implanter dans de nombreuses villes au sud de la France, mais aussi à Clermont-Ferrand, où plusieurs règlements de comptes survenus ces derniers mois portent sa griffe. Salué sur X par Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, ces gardes à vue, 42, hein, je le répète, parviendront-elles à stopper l'ascension de la DZ Mafia? Les forces et les méthodes de ce groupe ont poussé les pouvoirs publics à une prise de conscience quant au danger du narcotrafic en France, écrivent les journalistes du Parisien et aujourd'hui en France.
Et pour relancer les ventes à l'international, Renault mise sur une offensive massive de véhicules hybrides et électriques d'ici 2030.
Et oui, un vaste plan présenté hier par le constructeur automobile et dont parlent ce matin les Échos, le Parisien, il s'appelle en bon français Future Ready, F-U-T-U avec un grand R, Ready, conçu par le nouveau directeur général François Provost au lendemain du succès de la R5 électrique. Alors on apprend ainsi que le constructeur donc mise sur l'électrique et l'hybride, en prévoyant de cesser de vendre des voitures essence ou diesel d'ici 2030 en Europe. Alors précisons au passage que l'Union européenne a renoncé, face à la crise stratégique traversée par le secteur automobile, à imposer le passage du tout électrique en 2035. Et comme le souligne Mathieu Pelloli pour Le Parisien, le cap est ambitieux à l'heure où les ventes de 100% électriques plafonnent à 20% de parts de marché. Et encore, un chiffre à nuancer, puisque bien gonflé par les obligations faites aux loueurs ainsi qu'aux flottes d'entreprises.
Oui, et Renault mise aussi sur 50% de ses ventes hors Europe.
Ben oui, car le nouveau plan parie sur trois marchés prometteurs, c'est l'Amérique latine, l'Inde et la Corée du Sud, où Renault vient de lancer la Filante, sa nouvelle voiture. Vous la connaissez, Liselotte ?
Bah non, je vais
moi
regarder.
Non plus. Délaissant ainsi la Chine et l'Amérique du Nord, vous savez que c'est les deux plus gros marchés mondiaux pour l'automobile, le groupe Renault vise d'ici à 2030 plus de 2 millions de véhicules vendus par an, contre 1,6 actuellement, dont 50% hors d'Europe. Et aujourd'hui, cette part atteint les 38%. Alors, comme l'écrit de son côté les Échos, cette compétitivité a déjà convaincu d'autres constructeurs de sous-traiter aux Français la production de certains modèles. Outre les alliés Nissan et Mitsubishi, Renault va également assembler dans les années à venir des voitures pour Ford et Geely en Corée du Sud. De quoi ajouter à sa production en propre 300 000 unités par an à l'horizon 2030.
Et un événement culturel se profile demain, la réouverture du château de Breteuil à Choisel dans les Yvelines.
Oui, il n'y a pas que le château de Chambord, il y a aussi, vous le savez, le marquis de Breteuil, Henri de son prénom, qui a passé la main à son fils François et à sa belle-fille, qui chaque week-end, après leur semaine passée à Paris où ils occupent des postes dans la banque et la finance, se consacrent entièrement à ce chef-d'œuvre architectural, et ce sont les 9e du nom à reprendre la charge d'un lieu accueillant 145 000 visiteurs par an. Si vous l'avez visité un jour, les Lottes, c'était un des plus beaux châteaux meublés de France. En une petite année, écrit Claire Baumler dans les colonnes du Figaro, ils ont déjà réussi à ouvrir un café-restaurant digne de ce nom, proposant des produits locaux et des madeleines, en souvenir de Marcel Proust qui séjourna un jour à Breteuil, comme quoi, et fille d'un des ancêtres de François, un des personnages de la recherche. Le parc et les étangs, éreintés par les aléas climatiques, sont petit à petit réaménagés. Les guides se costument désormais le week-end, à la manière de ce qui se pratique dans les châteaux anglais. Mais la grande avancée du château sera dévoilée demain, le 12 mars, si vous êtes invité. Je ne sais pas si vous faites partie des 90 invités.
Je vais garder ça secret.
Oh, ouais, voilà. Le couple inaugurera de nouveaux décors dans des grands salons du rez-de-chaussée. Vous pouvez voir les photos sur le Figaro, dans le Figaro, enfin sur le site et dans le Figaro. Période électorale oblige, il manquera sans doute quelques élus attendus pour assister au renouveau de Breteuil, mais les autres verront que la maison est en train de changer d'air, passant d'un musée ancré dans les années 80 à un château plus incarné. Peintures, tentures, rideaux, meubles, objets, tableaux de famille, les pièces meublés, autrefois meublés, mais progressivement vidés afin d'être loués pour des mariages, ont repris leur fonction, et cela grâce au décorateur Jacques Garcia. Je leur ai proposé de les aider à redonner vie dans les salons Empire et des quatre saisons et dans deux pièces à l'étage, raconte le décorateur qui n'a pas touché un centime pour ce chantier. Alors je finirai cette chronique, ma chère Liselotte, par cette information donnée par le Canard Enchaîné qui a retrouvé un courrier daté du 23 mars 2016. Où Philippe de Villiers invitait l'ambassadeur d'Iran à Paris à venir visiter le Puy du Fou par ces mots. Je vous renouvelle notre intérêt pour créer en Iran un projet similaire dont l'aboutissement permettra la mise en valeur de l'héritage perse. Mais il n'y a pas eu de réponse ni de suite à ce projet. Et en octobre 2016, on le sait, Philippe de Villiers publiera « Les cloches sonneront-elles encore demain ?» un essai vendu à plus de 100 000 exemplaires dans lequel il écrit « L'adversaire, c'est l'islam conquérant » beaucoup plus que Daesh. Et les auteurs de cet article concluent « On y soit, qui mola y pense ». Sur ces considérations, je vous dis à demain.
Bah restez avec nous pour la zone libre, ouais. Gilles.
Zone libre.
Ça aurait été intéressant, un Puy du Fou iranien.
On ne sait jamais, il y en aura peut-être un dans l'avenir. Ça sera, je pense qu'ils ils l'appelleront le Puy, enfin ça sera surtout le mot perse qui apparaîtra.
Bah oui.
Comme une civilisation à part entière. Et c'est vrai que,
on espère que pendant ces guerres, il n'y a pas trop de patrimoine qui sera détruit, parce que tout à l'heure, notre invité en débattons-en nous révélait que par exemple, Israël avait bombardé un site archéologique vieux de 4000 ans au Liban.
C'est terrible. Ils ont déjà détruit, les Mollahs ont détruit, hein, j'en ai parlé ici, quelques sites. Ils ont déboulonné des statues, quelques sites aussi. Mais là, c'est dramatique. Moi, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'à l'heure de la technologie d'aujourd'hui, on peut cibler très très bien un studio comme celui-ci, si on veut. On peut cibler...
Donnez pas trop d'idées, Gilles, s'il vous plaît.
On vient de tout refaire en plus, merci.
mais on n'est pas capable d'éviter des sites qui n'ont rien à voir avec...
Ah, mais je pense que ce n'est pas une question de capacité, je pense que c'est une question de volonté. En l'occurrence, c'est Israël qui a bombardé au Liban ce site, et je pense que...
C'est un peu triste, franchement.
On le sait qu'il qu'ils ont quand même toujours plus de soucis pour leur culture que celle des autres. Hein. Ça, mais c'est oui, vrai. C'est triste.
C'est allez, triste. C'est dit au passage.
Oui, voilà, hop.
Voilà. On y soit qui mola y pense. Hein.
Merci Gilles, de toute façon, pour cette revue de presse. Et puis merci pour
cette gardons la foi et l'espérance. Vous avez vu qu'aujourd'hui, je n'ai pas
c'était
trop parlé.
C'était la conclusion de notre invité. Ah, il disait, ouais, on va garder cette espérance et on va rester sur place.
En ce temps de carême, il faut prier. Moi, je prie beaucoup pour les Libanais parce que je trouve que c'est un peuple qui essaye toujours de s'en sortir. Et à chaque fois, on retombe dans les mêmes écueils. Et vraiment, vraiment, ils méritent mieux.
Et puis, il y a une population vraiment courageuse hein, qui affronte les bombes pour garder leur terre. Et c'est très inspirant par ailleurs. Merci Gilles. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous ce matin. C'était un plaisir. Je vous le rappelle, la radio, c'est toute la journée. Vous pouvez nous écouter sur la bande FM ou sur rc.fr. Le direct prend fin sur YouTube ce matin. Si jamais vous nous quittez, eh bien, souvenez-vous aussi que la radio compte sur vos dons pour pouvoir continuer à émettre. En fait, vous êtes les seuls à nous financer et donc les seuls à garantir votre possibilité d'avoir accès aux programmes qu'on vous offre, et donc des programmes que vous n'entendez pas ailleurs.
Voilà, si vous nous découvrez par exemple au hasard de vos promenades sur YouTube ou en tournant le bouton de la bande FM dans votre voiture, sachez que Radio Courtoisie, d'ailleurs vous avez pu le remarquer, ne diffuse aucune publicité parce qu'elle refuse toute ressource publicitaire et ne vit que grâce à ses auditeurs. Ce sont les auditeurs qui financent 100% de la radio, alors si vous voulez nous rejoindre, c'est avec plaisir que nous vous accueillerons sur soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr ou vos chèques au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Un grand, grand merci d'avance.
Oui, merci d'avance et puis un grand merci à ceux qui donnent déjà et depuis longtemps. On poursuit donc avec l'Union européenne, l'Union des droites contre l'immigration. Ça fonctionne, c'est avec Fabrice Leggeri.
Ligne droite. Debout les Français.
Et nous débutons avec Fabrice Leggeri, l'ex-patron de Frontex, chers auditeurs, mais aussi maintenant député européen, Rassemblement National. Bonjour et merci d'être avec nous. Est-ce que vous nous entendez bien ?
Oui, bonjour et merci de votre invitation.
On est content de vous recevoir ce matin pour une fois une bonne nouvelle à l'Europe. Et en matière d'immigration, cette fois Fabrice Leggeri, une nouvelle qui fait du bien donc, puisque souvent, les auditeurs le savent, quand on parle d'immigration, on parle très rapidement aussi des freins qui sont posés à échelle européenne aux États qui voudraient justement limiter cette immigration. Aujourd'hui, eh bien, l'Union européenne est sur le point de renforcer le cadre légal qui encadrait donc l'immigration clandestine. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ?
Oui, nous avons voté dans un format politique Union des droites il y a deux jours au niveau de la commission parlementaire et ça va venir très bientôt à l'Assemblée plénière du Parlement européen. En tout cas, nous avons voté un règlement européen pour renforcer les retours, c'est-à-dire en réalité les expulsions de migrants clandestins et de déboutés du droit d'asile. Ce qui est très important, c'est que nous avons mis en minorité le rapporteur centriste macroniste, un néerlandais, mais enfin, nous avons mis en minorité les centristes et toutes les gauches qui avaient rêvé de continuer à faire une espèce d'alliance avec le PPE, le centre droit. Et nous avons, en union des droites, donc nous, le groupe des Patriotes, où siège le Rassemblement national, avec le PPE, donc en France, François-Xavier Bellamy, mais aussi le groupe de Marion Maréchal et le groupe où siègent Sarah Knafo et l'AFD allemande, eh bien, nous avons fait passer nos amendements et nous avons fait passer, en réalité, le rétablissement du délit de séjour irrégulier, la possibilité d'expulser immédiatement, même lorsqu'il y a des recours devant les juridictions. Et nous avons également la possibilité, dans ce texte, de créer des plateformes de retour, donc des hubs en dehors de l'Union européenne, vers lesquels pourront être, même temporairement, renvoyés les OQTF avant d'obtenir les papiers pour leur pays de destination, c'est-à-dire en fait leur pays d'origine. Et nous avons également étendu la possibilité de rétention administrative jusqu'à 2 ans. Et ce qui est très intéressant aussi d'un point de vue, je dirais, de la souveraineté des États membres, c'est que nous avons complètement reconstruit le texte de manière à ce que ce soit, si vous voulez, au niveau européen, une plateforme de plancher de peine planchée, de sanction planchée commune à tous les États, sur laquelle peuvent ensuite développer, enfin que tous les États peuvent développer dans la sévérité en droit administratif national ou en droit pénal national. Donc c'est satisfaisant, je dirais, du point de vue évidemment du fond, parce que pour la première fois, nous voyons l'impact de notre poids électoral au Parlement européen dans un sujet décisif où pour le moment, les États de l'Union européenne étaient réduits à l'impuissance par une législation sur les expulsions qui donnait tous les droits aux migrants expulsés et quasiment aucun droit aux autorités nationales qui voulaient les renvoyer.
Mmh. Oui, c'est assez réjouissant de voir que lorsque la droite s'unit, finalement, la droite est tout à fait puissante. Elle peut faire passer en force ce genre de mesures, Fabrice Leggeri. Et on imagine en plus que dans un contexte de guerre au Moyen-Orient où beaucoup d'Européens craignent des vagues migratoires, ce texte va passer au bon moment.
Oui, alors en fait, nous sommes effectivement en majorité, pour vous donner une idée, dans cette commission parlementaire qui s'appelle Liberté publique. Allez savoir pourquoi la commission qui s'occupe des migrants à Bruxelles ou à Strasbourg s'appelle Liberté publique. C'est tout un symbole, mais on pourra en reparler une autre fois. Mais en tout cas, il y a eu 40 voix pour ce texte et 31 voix contre. Donc ça montre bien que lorsque nous sommes en format union des droites, nous gagnons. Et le Rassemblement national, je le rappelle, possède 30 sièges au total au Parlement européen. Donc sur les 81 sièges français, nous en avons 30 pour le Rassemblement national. C'est la délégation nationale la plus nombreuse au Parlement européen. Donc ça paye effectivement sur des textes comme ça.
Alors, vous avez prononcé ce mot d'État, de souveraineté. C'est l'aspect important de ce texte aussi, c'est de vouloir justement remettre cette souveraineté des États au centre de la table. Aujourd'hui, on a beaucoup de Français et beaucoup de nos auditeurs qui sont très déçus, encore une fois, de l'Union européenne. Vous y travaillez, Fabrice Leggeri. Ce que vous affirmez en prévoyant ce genre de mesures, c'est aussi que l'Union européenne peut travailler à la souveraineté des États et non pas contre.
Alors, évidemment, nous sommes parvenus à ce résultat parce qu'il y a aujourd'hui au Parlement européen le poids des groupes, je dirais, souverainistes, eurosceptiques et en particulier eurosceptiques sur les questions migratoires, sur les questions d'environnement, le fameux pacte vert qui est un véritable pacte de décroissance contre toutes nos industries. Il y a également le pacte vert qui fait, je dirais, beaucoup de mal à notre agriculture. Donc, dans tous ces domaines, nous pouvons agir. Alors, en ce qui concerne la souveraineté, eh bien, je dirais que nous commençons à reprendre le contrôle en matière migratoire. Bien entendu, que nos auditeurs comprennent bien, après 2027 et lorsque le Rassemblement national sera à l'Élysée, nous organiserons un référendum constitutionnel en France qui nous permettra de complètement reprendre le contrôle, puisque là, nous inscrirons dans notre Constitution française des principes directeurs qui s'appliqueront aux politiques migratoires et qui diront notamment que nous n'avons pas à nous soumettre aux droits de l'Union européenne en matière migratoire, que nous n'avons pas à nous soumettre aux décisions de juges de la Cour de justice de l'Union européenne ou d'autres juridictions internationales comme la Cour européenne des droits de l'homme. Mais pour le moment, en 2026, nous avons utilisé, comme nous l'avions promis aux électeurs, nous avons utilisé notre pouvoir en union des droites, donc avec les groupes que je vous ai indiqués, pour renverser la table et même mettre en minorité le rapporteur officiel de ce texte qui, en réalité, voulait encore faire un texte à gauche. Donc c'est une double, je dirais, un double événement, parce que non seulement nous réorientons dans le sens de la fermeté la politique des expulsions, mais en même temps, nous avons ce que l'extrême-gauche appelle, nous avons fait un coup d'État, puisque nous nous sommes emparés du texte grâce à notre poids en nombre de députés.
Mmh. Vous étiez, Fabrice Leggeri, le patron de Frontex, donc qui est l'agence chargée de gérer justement ces flux migratoires dans l'Union européenne et donc surtout de garantir nos frontières. Est-ce qu'avec un tel texte, vous auriez pu concrètement travailler différemment au sein de Frontex ? Enfin voilà, quels vont être les effets concrets de ce que vous avez voté là dans les mois et les années à venir ?
Alors bien sûr, l'agence Frontex, qui a aussi, comme vous le dites, un mandat pour aider les États de l'Union européenne à faire des expulsions, va pouvoir travailler beaucoup plus efficacement parce que ce sont tous les acteurs des expulsions qui vont pouvoir travailler efficacement et à commencer par les États membres. Mais ce que je vous disais, c'est que, évidemment, pour pouvoir profiter pleinement de cette bonne législation qui vient d'être, enfin qui est en cours d'adoption à Bruxelles, il faut aussi que les États membres utilisent leur pouvoir pour en tirer tous les bénéfices. Et moi, la question que je pose au gouvernement macroniste en France, c'est est-ce qu'ils vont accepter, oui ou non, de créer des plateformes, des hubs d'expulsion en dehors de l'Union européenne ? Nous savons déjà que l'Italie de Giorgia Meloni a lancé un projet pilote en Albanie. Et bien, grâce à cette législation européenne, elle pourra la mettre en vigueur. Est-ce que le gouvernement macroniste voudra faire un accord avec l'Italie pour être autorisé à utiliser conjointement le hub des Italiens en Albanie ? Je ne le pense pas. Mais lorsque nous serons aux responsabilités, évidemment, nous utiliserons tout de suite toutes les potentialités que nous offre ce texte et, comme je le disais, évidemment, nous organiserons un référendum constitutionnel qui pourra nous mettre à l'abri comme un bouclier constitutionnel français contre l'immigration non choisie et contre toute cette dérive immigrationniste.
Et alors, au-delà justement de cette immigration non choisie qui pourrait encore arriver, tenter d'arriver dans les mois à venir, par exemple en France, Fabrice Leggeri, il y a aussi, ce que vous avez dit, tout un tas de mesures qui sont faites pour permettre l'expulsion des clandestins. Et en fait, ce que vous nous expliquez, c'est que vous êtes en train de mettre en place les outils à échelle européenne pour pouvoir pratiquer le concept de rémigration. C'est assez intéressant parce que depuis des années, quand on en parle, alors d'abord c'était très tabou et puis ensuite, désormais, c'est présenté comme quelque chose d'extrêmement barbare, de violent, on serait presque proche de la guerre civile. Aujourd'hui, vous actionnez certains leviers parfaitement légaux et politiques pour pouvoir organiser cette rémigration qui finalement découle plus du bon sens.
Oui, je peux donner une mesure totalement novatrice. Au-delà, je dirais, du maintien en rétention administrative pendant 24 mois. Mais il y a, par exemple, la possibilité légalement, dans ce texte, de fouiller le téléphone, c'est-à-dire de consulter pour que la police et l'administration responsable des expulsions puissent vérifier le contenu des téléphones portables des migrants, parce que très souvent, les OQTF ne veulent pas révéler leur nationalité, ne veulent pas révéler leur nom. Et donc, tout ça, ça fait des obstacles juridiques à l'expulsion qui ensuite sont exploités par des avocats pro-immigration et les ONG. J'entendais ce que vous disiez à propos de cette ONG absolument scandaleuse, Utopia 56. Eh bien, les ONG de ce type sont parfaitement complices de cet immigrationnisme et aujourd'hui font obstacle à l'exécution des expulsions. Eh bien, désormais, il sera possible de vérifier ce qui se trouve dans le téléphone portable et donc d'y trouver vraisemblablement des indices qui révéleront le nom, la nationalité des OQTF à expulser. Donc ça, c'est juste un exemple, mais ce sera maintenant légal et donc c'est un outil supplémentaire pour les forces de l'ordre et les administrations chargées des expulsions.
Vous avez la sensation que cette thématique justement de la rémigration, ou en tout cas, quelle que soit la façon dont on l'appelle, cette volonté de mieux contrôler l'immigration au sein de l'Union européenne et même de chaque État, c'est vraiment une thématique qui s'est imposée au sein de l'Union européenne désormais, et notamment grâce au genre d'alliance que vous avez pu faire donc cette semaine, Fabrice Leggeri.
Vous savez, les peuples qui ont voté aux élections européennes en juin 2024 ont été très clairs. Ils ont envoyé en France, évidemment, un contingent très nombreux, je vous le disais, 30 députés européens français du Rassemblement national, mais nous avons dans notre groupe, le groupe des Patriotes pour l'Europe, qui est le premier groupe de position au Parlement européen, nous avons derrière nous 20 millions d'électeurs en Europe provenant de 12 États de l'Union européenne, et vous avez également dans le groupe des conservateurs et réformistes où siège Marion Maréchal, vous avez également des bataillons extrêmement importants. C'est le deuxième groupe, je dirais, eurosceptique après nous. Et puis, vous avez finalement le PPE, ce qui était le centre-droit, là où siègent les LR français, qui étaient toujours prisonniers de l'espèce d'alliance avec les socialistes et les centristes, et qui, là, ont évidemment rompu ce qu'on appelait honteusement le cordon sanitaire. Donc, nous travaillons ensemble parce que les peuples, parce que les électeurs le demandent et que les électeurs en ont assez. Et vous savez, pour nous, le principe est très simple. Il faut garder nos frontières et donc il faut empêcher les migrants clandestins, illégaux, de venir sur le continent européen. Mais lorsqu'ils sont déjà ici en situation clandestine ou lorsqu'ils sont déboutés du droit d'asile parce qu'ils ont abusé du droit d'asile, eh bien, nous devons faire absolument appliquer le principe. Quelqu'un qui n'a pas le droit de rester doit partir.
Voilà, du bon sens finalement. Merci beaucoup. Exactement. Fabrice Leggeri d'avoir été avec nous ce matin. Encore une fois, c'est agréable de commencer la journée pour une fois avec une bonne nouvelle. Donc merci pour votre travail, merci pour cette union des droites que vous nous offrez à l'Union européenne. Et puis écoutez, on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à nous tenir au courant de ce genre d'actualité, on vous recevra avec plaisir.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Lise-Lotte Dutreuil.
Merci chers auditeurs d'avoir été avec nous ce matin, c'était un plaisir de vous offrir ce programme. Rappelez-vous néanmoins qu'on ne peut pas le faire sans vous, en tout cas sans les donateurs qui sont déjà engagés avec la radio. Et si ce n'est pas votre cas, eh bien on vous engage à le faire.
Vous avez raison, Lise-Lotte, on peut même dire que nos auditeurs sont aussi un peu les producteurs de Radio Courtoisie puisqu'ils sont les financiers de notre radio. Alors si vous écoutez Radio Courtoisie, eh bien sachez que vous êtes les seuls à la financer. Si vous ne faites pas encore de dons, eh bien pensez-y, allez sur soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr pour faire un don en fonction de vos moyens. Un petit don, plein de petits dons font des gros dons, ou un gros don si vous le pouvez. soutenir.rc.fr, merci d'avance.
Ouais, merci d'avance. Beaucoup n'y croient pas quand on dit que seuls les auditeurs financent la radio.
Et c'est comme ça depuis 87, hein, donc voilà, ça marche.
Quel sera le programme du jour, Franck ?
Pourquoi lire ? C'est la question posée dans Voix au chapitre avec Anne Lepape dans quelques secondes. À midi, le libre journal de la liberté de penser de Clara Schneider. La crise en Iran, Israël et États-Unis au programme. 14h, le libre journal des Beaux-Arts de Michel Colombin. Clément Perrier, écrivain, chansonnier, concepteur de l'Hôpital Gagnant. À 17h, le RCMAC de Jean-Étienne Pozard, engagement pour une France souveraine, notamment, parmi les sujets. 17h30, vous retrouverez Arthur de Vatrigan pour son Restons courtois du mercredi. 19h30, le libre journal de la Résistance française, dirigé cette semaine par Nicolas Stocker. 21h30, le libre journal des débats de Charles de Meyer pour Les femmes entrent en révolution. Et à 23h, rendez-vous avec Virginie pour la soirée musicale. Aujourd'hui, un florilège musical de Rimsky-Korsakov.
Bah, ça fait envie. Nous, on se retrouve demain à 7h au micro d'Alexandre de Galzin.
Bonne journée à tous, à demain.